Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de m'adapter à ce micro, cette chaire. C'est toujours différent quand on passe d'une église à l'autre, mais c'est aussi une joie de pouvoir vivre ces moments ensemble et à d'autres endroits. Et c'est chouette de pouvoir le vivre et le vivre ce matin. Je vais me présenter encore très légèrement, donc Pierre-Alain Luc Bulle. Je suis à l'église de Saverne, j'ai mon épouse et mes enfants, donc deux enfants, qui participent aussi au flambeau avec certains d'entre vous. Ils sont à l'église de Saverne, voilà, il y a tout un programme aussi dans notre église qui suivent. Je suis président en effet de l'église depuis 5 ans et aussi dans l'équipe d'anciens. Et on travaille beaucoup depuis 5 ans à remettre en route l'église suite à quelques difficultés qu'on a eues il y a 5 ans en arrière. Et c'est aussi un vrai plaisir de voir comment Dieu peut agir dans ces moments-là, quand on repart presque de zéro et puis que petit à petit les choses se font. Des gens viennent aussi pour nous aider de l'extérieur. Et on est dans cette dynamique-là à Saverne aujourd'hui. Je vais aborder un texte qui m'a particulièrement parlé et d'une manière assez spéciale, vous allez le voir. C'est dans Éphésiens, donc c'est une lettre aux Éphésiens, on a entendu parler de Paul. Eh bien, on va lire une lettre justement de Paul qui va nous encourager, notamment à agir dans nos vies, mais surtout autour de nous. C'est une lettre... la lettre aux Éphésiens qui se distingue des autres lettres qu'il a pu écrire, notamment par sa forme, mais aussi par son contenu. Parce que contrairement aux écrits habituels de Paul, qui répondent souvent à des besoins très spécifiques d'une église locale, eh bien, cette lettre-là, aux Éphésiens, aborde plutôt des termes de manière générale. Dans cet épître, Paul ne va pas se concentrer en effet sur la conduite du chrétien au sein même de l'Église. Il va plutôt mettre l'accent sur le comportement pratique du croyant dans le monde qui l'entoure, là où il va être. Et il exhorte tous ses lecteurs, les lecteurs de cette lettre, à vivre dans la sainteté, tout en précisant qu'ils ne doivent pas pour autant vivre en reclus. Ils ne doivent pas vivre à l'écart des autres hommes. Les chrétiens, comme il le dit, sont en effet appelés à vivre au milieu d'une société qui est bien souvent étrangère à Dieu. C'est donc le contexte dans lequel on va se plonger maintenant. Donc Éphésiens chapitre 5, les versets 6 à 15. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles: réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Alors pour aborder ce texte et aller un peu plus loin, je vous invite à me suivre dans un parcours de VTT. C'est un sport en effet que j'apprécie particulièrement. Certains ont déjà pu me voir au flambeau. C'est en effet quelque chose que j'apprécie. Ça me permet de me dépenser, mais aussi de réfléchir à un certain nombre de sujets, comme par exemple à cette prédication de ce matin, mais un bon nombre d'autres choses qui concernent mon travail, qui concernent l'Église. Alors commençons cette rando qui va se dérouler en 7 étapes, 7 lieux qui vont en effet servir à illustrer ce passage d'Éphésiens que je viens de lire, en montrant la progression de ce texte et ce qu'il signifie dans nos vies. Alors voilà la première étape. C'est un matin bien ordinaire à Saverne, lorsque j'ouvre la porte, surtout en hiver, le brouillard. Alors, je ne sais pas comment c'est ici, mais en tout cas à Saverne, on l'a souvent, notamment dans cette période. Et malgré les prévisions météo qui peuvent annoncer un grand soleil, nous voilà enveloppés dans un brouillard. Le brouillard, c'est quelque chose qui est pénible à vivre. C'est quelque chose d'assez pénible à supporter. Ce n'est pas très joyeux, ça ne nous motive pas à sortir. Il fait sombre, il fait froid. On peut même parfois sentir la pollution dans ce brouillard, parce que tout stagne comme une chape de plomb qui est sur nos têtes. Alors ces journées-là, on peut aussi dire que les merveilles de la nature qui nous entourent nous sont cachées, et puis il y a aussi l'obscurité qui tombe plus vite ces jours-là. Alors j'ai trouvé cette image particulièrement pertinente pour commencer d'aborder ce texte, parce que si j'avais à illustrer l'effet du péché dans le monde, eh bien, le brouillard serait un excellent choix. C'est quelque chose, en effet, qui nous environne, ce brouillard, un peu comme le péché. C'est oppressant, partiellement palpable. Il nous est difficile parfois de dire là où il commence, là où il finit. Mais on peut deviner qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose qu'on n'arrive pas à distinguer. Et ces jours de brouillard nous feront ressentir au plus profond de nous-mêmes qu'il manque quelque chose pour se sentir pleinement bien. Alors juste avant ce passage d'Éphésiens qui nous parle de la lumière dans nos vies, eh bien Paul va énumérer un certain nombre de péchés qui règnent dans ce monde. Il va notamment évoquer l'immoralité, les pratiques dégradantes sous toutes ses formes, la soif de posséder, les propos grossiers ou stupides, les plaisanteries équivoques, encore l'idolâtrie. Paul avertit dans ce passage, en tout cas juste avant ce qu'on a lu, aussi qu'aucun homme qui se livre à toutes ces choses n'aura d'héritage dans le royaume de Dieu. Comme un brouillard épais, ces péchés qui nous entourent nous oppressent, nous empêchent de voir au-delà jusqu'à pouvoir nous priver du royaume de Dieu. Le péché, c'est en effet une barrière qu'il y a entre nous et Dieu. Et c'est un obstacle bien réel qui tend à nous éloigner de lui. Et c'est pour ça que Paul, dans ce chapitre d'Éphésiens qu'on a lu, commence avec le verset 7 par ces mots « Ne vous associez pas à ces gens-là ». Autrement dit, ne vous joignez pas à leurs actions mauvaises. Si Paul commence de cette manière, c'est parce qu'il existe, en tout cas il existait une pratique jusqu'au sein même de l'Église à cette époque-là, à promouvoir ces pratiques comme si finalement elles étaient bonnes. À l'époque de Paul, il y avait en effet de faux chrétiens qui prétendaient que les croyants pouvaient vivre dans le péché sans avoir à en subir les conséquences. Ils utilisaient des arguments qui étaient trompeurs pour convaincre les chrétiens, notamment les plus ignorants, qu'il n'était pas si grave de pécher, comme par exemple en disant « Vous avez été sauvés par grâce, alors vous pouvez continuer à pécher parce que la grâce de Dieu abondera encore plus. » Eh bien, c'est contre cet argument qui est insensé que Paul va s'élever dans le verset 6 qu'on a lu, en disant que personne ne vous trompe par des discours sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Alors Paul traite également en profondeur ce sujet dans Romains 6, où il réfute l'idée que la grâce excuse les péchés. Et bien au contraire, en ayant été libérés du péché par la grâce, nous ne devons en aucun cas permettre au péché de dominer notre vie. Dieu juge le péché là où il est, là où il se trouve, et il ne veut pas le trouver dans la vie de ses enfants. Alors si un chrétien n'est pas exempt de péché, Il péchera de moins en moins au fur et à mesure qu'il grandit dans la foi, et il prouvera cette réalité de sa foi par une vie d'obéissance. Paul met en effet en garde les chrétiens contre toute forme d'association avec le péché, en nous exhortant d'être vigilants aux discours trompeurs qui peuvent chercher parfois à justifier ou à excuser le péché. Paul nous invite à rechercher une vie de piété et de sainteté. Et c'est de cette manière que Paul nous amène au verset qui suit, le verset 8, qui fait justement une transition entre le monde de ténèbres et la lumière qu'il commence à introduire. Verset 8, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. » Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Eh bien, c'est là le point principal de ce passage, dans lequel Paul nous exhorte en effet à marcher dans la lumière. Eh bien, ce verset, il marque aussi la deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle où nous refusons de demeurer dans l'obscurité et nous aspirons à aller au-delà pour chercher justement cette lumière qui brille et qui éclaire notre vie. C'est à ce moment-là que nous nous préparons à aller pleinement à la rencontre de cette lumière. Il est intéressant d'examiner les verbes, les temps utilisés par Paul dans ce verset, parce qu'il dit « Autrefois, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, vous appartenez à la lumière. » Paul ne dit pas qu'avant de devenir chrétien, nous étions simplement dans les ténèbres, mais il affirme que nous étions nous-mêmes ténèbres. Ça signifie qu'il y a une réalité spirituelle profonde ici, puisque notre nature même était liée avec l'obscurité. Mais grâce à notre union avec le Seigneur, nous sommes désormais lumière. Ce parallèle révèle qu'il n'existe que deux chemins qui sont parfaitement distincts. Il y a celui des ténèbres et celui de la lumière. Celui de la vie dans le péché et celui de la vie avec Christ. Et ces deux mondes sont totalement séparés. Il n'y a aucun recouvrement possible. Soit nous marchons dans l'un, soit nous marchons dans l'autre, mais pas un peu des deux et encore moins quand ça nous arrange. Paul illustre cette vérité en décrivant ce que signifie être les ténèbres. Il s'agit des péchés, comme il l'a énuméré dans les versets qui précèdent, avec un avertissement clair dans ce passage qu'on a lu. « Ne suivez pas ces gens-là, car cela ne mène nulle part. » Les œuvres des ténèbres qui sont marquées par le péché nous conduisent en effet sur un chemin qui mène à une séparation d'avec Dieu et du coup à une mort spirituelle. En revanche, le chemin de la lumière de Dieu nous rapproche de notre Créateur et de ses bontés, à travers une vie de piété, d'œuvres bonnes. Et c'est comme ça que Paul continue, verset 9, en disant « Le fruit produit par la lumière consiste en tout ce qui est bon, juste et vrai. » Paul nous pousse ici à comprendre une vérité qui est essentielle. Plus nous avançons sur un chemin, eh bien plus nous nous éloignons de l'autre. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. C'est pour ça qu'on doit se poser ces questions cruciales. Une des questions serait, sur quel chemin marchons-nous actuellement ? Et peut-être une autre façon de tourner cette question, qui peut être intéressante aussi, c'est de se dire, où est-ce que le chemin sur lequel nous avançons là, actuellement, peut-il bien nous mener par la suite ? Alors, il n'est pas toujours évident de répondre à ces questions, notamment parce que, eh bien, parfois, nous sommes justement plongés dans ce brouillard. Dans ces moments, eh bien, nous avons besoin justement de Dieu pour qu'il éclaire notre chemin, pour nous révéler justement ce qui est bon, mais aussi ce qui est mauvais dans notre vie. Et pour cela, il est essentiel de raviver cette lumière afin d'y voir plus clair. Et pour parvenir à cette lumière, eh bien, il est nécessaire de la rechercher activement. Et c'est précisément l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 qui est... qu'on va remontrer... Ouais, celle juste avant. Raviver la lumière, c'est... ici, la montée vers le château du Haut-Bar, donc il y a une belle côte à gravir. Et ça fait repenser à ce verset 10 d'Éphésiens, donc qui est toujours dans la suite des versets qu'on a lus petit à petit. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Par ce verset 10, Paul nous exhorte à discerner ce qui plaît au Seigneur. C'est ce discernement qui va nous permettre de savoir justement sur lequel des deux chemins nous sommes en train de marcher. Dans ce verset, le premier terme, eh bien, il est particulièrement évocateur. Il parle d'effort, efforcez-vous, ou autrement dit, de se forcer à. Et il ne faut pas s'y tromper, parce que vouloir sortir de ce brouillard pour aller à la rencontre du Seigneur, eh bien, ça ne se fait pas sans effort de notre part. Raviver la lumière peut parfois nous coûter beaucoup. Et le verset 14, il est tout aussi évocateur quand il dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. » Réveille-toi, relève-toi, efforce-toi. Eh bien, il est question ici de se secouer. Cette image de la troisième étape montre que nous sommes encore dans le brouillard, mais on aperçoit au loin cette lumière. Mais on n'y est pas encore. Et pour y parvenir, il y a justement une côte à gravir ici. Il y a un effort à fournir. Alors, en quoi peut bien consister ces efforts? Alors, on peut déjà prendre un exemple concret. Se lever le dimanche matin. Ah oui, se lever le dimanche matin pour venir à l'église. Combien de fois on aurait préféré rester peut-être au chaud sous sa couette plutôt que de faire l'effort de nous lever et de venir. Il est tellement plus simple de rester endormi alors que venir à l'église me coûte. Réveille-toi, ô toi qui dors, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Il existe de nombreux moyens de raviver cette lumière en nous. On peut citer des exemples qu'on citerait facilement comme aller à des réunions de prière, à des groupes de maison ou à d'autres activités où nous nous retrouvons entre chrétiens pour partager notre foi, méditer la parole de Dieu, louer ensemble et nous fortifier mutuellement. Voilà quelques bons exemples. Mais peut-être qu'un effort des plus contraignants consisterait à nous mettre à l'écart de tout ce qui nous entoure pour nous retrouver seuls face à face avec Dieu. C'est se forcer à prendre ce temps où nous ouvrons la parole pour la lire et pour la méditer, à l'écart de toute autre perturbation. C'est aussi ce temps pour prier notre Père en se mettant à l'écart, dans une intimité totale, pour rechercher cette communion avec lui. Matthieu 6, verset 6, c'est Jésus qui parle en disant « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Oui, c'est vrai que dans ce monde où on nous pousse à vivre à 200 à l'heure toute la journée, toujours connecté pour ne rien manquer, eh bien, ce verset 10 d'Éphésiens prend tout son sens quand il nous dit « Efforcez-vous ». Efforcez-vous à discerner ce qui plaît au Seigneur. En disant « efforcez-vous », eh bien, ce verset nous alerte aussi sur le fait de ne plus adopter l'attitude que peuvent avoir certains chrétiens qui attendent sans cesse la révélation de Dieu pour leur vie, tout en s'endormant dans l'attente justement que quelque chose veuille bien se passer pour commencer à avancer. Ils attendent la révélation divine ultime pour avancer. Alors oui, Dieu peut se révéler à nous à chaque instant en transformant radicalement notre vie, sans jamais, peut-être, parfois, que nous fassions quelconque effort. Et ce fut exactement le cas pour Paul, hein, d'ailleurs, sur le chemin de Damas, lui qui ne faisait aucun effort pour chercher Dieu, bien au contraire, hein, eh bien Dieu s'est révélé à lui et il a radicalement changé sa vie du jour au lendemain. Mais en même temps, c'est ce même Paul qui a écrit la lettre aux Éphésiens et il nous dit « Efforcez-vous » ou bien encore il dit « Réveille-toi » parce qu'il sait justement désormais combien il est précieux de ne pas attendre que Dieu doive intervenir pour commencer à lui obéir. Ce passage, il nous invite à être dynamique, à ne pas rester immobile, mais à nous réveiller, à nous lever, à nous efforcer de discerner ce qui plaît au Seigneur. Et c'est ainsi que nous vivons dans une vie de plus en plus rayonnante, une vie éclairée par Dieu. Et quand Dieu nous éclaire, qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que la lumière de Dieu peut être bonne et douce quand nous l'avons sur nous ? C'est un peu comme cette étape numéro 4. Lorsqu'on arrive au sommet de la colline, nous sommes alors au-dessus du brouillard, nous pouvons voir au loin. Les rayons du soleil, non seulement à ce moment-là, réchauffent l'atmosphère, mais ils réchauffent aussi notre être intérieur jusqu'au plus profond de notre cœur. Ici, quand on est au plus proche de l'origine de la lumière, on remarque clairement la séparation qu'il y a entre le brouillard et la lumière. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette image parce que bien qu'elle soit parlante, elle peut aussi prêter à confusion. Si cette lumière révèle Dieu, elle éclaire aussi ce qui est mauvais. En dévoilant la véritable nature des choses, la lumière de Dieu met donc aussi en lumière notre véritable caractère. Et cette révélation n'est pas toujours très flatteuse. Lorsque Jésus était sur terre, la perfection de son caractère et sa conduite mettaient en évidence le péché de ceux qui l'entouraient. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chefs religieux le haïssaient et cherchaient à le faire mourir. Jean 15, verset 22, c'est Jésus qui parle, qui dit « Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. » Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Trouver la lumière de Dieu, ce n'est pas simplement rechercher un réconfort, un endroit où on se sent bien, un moment agréable, sans douleur ni stress, où l'on oublie peut-être tous nos désagréments. Trouver la lumière de Dieu réside avant tout dans le fait de chercher sa volonté, en comprenant d'abord qui il est, puis en comprenant ce qu'il attend de nous, en passant bien entendu par ce qu'il désire voir changer en nous. Paul le dira de la manière suivante, au verset 17 de ce qu'on a lu. « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Et nous voilà à étape numéro 5. Ici, le verbe « comprendre » dans ce verset 17 s'applique à l'utilisation de notre intelligence. Oui, Dieu nous a donné une intelligence qui doit nous servir à découvrir et à faire la volonté de Dieu. Un certain nombre de chrétiens pensent peut-être que le discernement de la volonté de Dieu est une expérience qui écarte tout raisonnement, c'est quelque chose qui pourrait être presque mystique, quelque chose qui doit nous dépasser. Ce qui est d'ailleurs bien pratique pour justifier un peu tout. Ils diront aussi que si c'est le fruit de notre réflexion, alors ça ne peut pas venir de Dieu, puisque c'est nous qui avons réfléchi à sa place. Mais cette vision, elle est erronée, elle s'avère dangereuse. Voici ce que Paul enseigne dans l'Épître aux Romains, cette fois, et qui complète ce passage d'Éphésiens en disant, Romains 12, verset 2, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par... » le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Paul affirme que nous découvrons la volonté de Dieu lorsqu'il transforme notre intelligence. Si Dieu nous a créés, en effet, avec une intelligence, c'est bien pour qu'on s'en serve. Parce que Dieu ne veut pas seulement que nous connaissions sa volonté, il veut aussi que nous la comprenions pour qu'ensuite nous l'appliquions. Et c'est parce qu'il a un plan pour nos vies qu'il souhaite justement que nous comprenions et que nous nous efforcions à le déployer. C'est un peu comme cette image de cette étape-là, étape 5. Cette lumière éclaire et nous permet de distinguer tout ce qui nous entoure. Elle éclaire aussi bien les obstacles que le sentier qu'il faut suivre, afin que nous comprenions justement où est-ce qu'il est bon d'aller. Il nous appartient alors, quand tout est éclairé autour de nous, eh bien de tourner le guidon dans le bon sens et puis d'appuyer sur les pédales. Si Dieu m'a sauvé, il a un but dans ma vie et je dois découvrir lequel c'est et m'y conformer. Le chrétien est appelé à marcher en cherchant à discerner ce que Dieu attend de lui. Et ça implique de mettre l'accent sur la vie nouvelle que le chrétien mène, en contraste avec l'ancienne, et de s'efforcer d'imiter Dieu plutôt que de se conformer à un monde corrompu qui l'entoure. L'étape 6 de ce parcours, c'est le moment où on redescend. On redescend pour mettre justement en pratique cette volonté de Dieu que nous avons pu découvrir. Alors j'aime bien cette photo, même si j'en étais pas très fier sur le coup, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit problème sur cette photo. Il y a quelque chose en effet qui ne va pas. Ce jour-là, j'étais presque arrivé à la fin du parcours. Je roulais tranquillement, c'était un chemin relativement facile, surtout sur le retour. Et puis il y avait une pierre qui était un peu plus grosse que les autres, qui ressortait au milieu du chemin. Alors j'aurais pu passer par-dessus, mais cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai préféré l'éviter, passer juste sur la gauche. Alors j'ai remarqué qu'il y avait quand même un petit peu plus de feuilles sur ce côté gauche. À peine je m'y engage, ma roue s'enfonce légèrement dans les feuilles qui s'étaient accumulées dans un petit creux, juste de quoi faire pivoter la roue en dehors du chemin. Et quand on regarde ce qu'il y a à gauche de ce sentier, eh bien, c'est une pente à peu près de 50% qui dévale sur une centaine de mètres avec plein d'arbres et surtout des ronces. Quand je vois que mon vélo s'engage sur ce flanc de colline, eh bien, j'essaie de freiner pour justement ne surtout pas prendre de vitesse, me laisser aussi le temps de me coucher sur le côté pour m'arrêter. Mais dans une telle pente, eh bien, on ne peut pas freiner juste avec la roue arrière, parce que ça ne sert presque à rien quand la pente est trop forte. Alors il faut freiner davantage de la roue avant, mais en freinant un peu trop de la roue avant, vous imaginez oui, ce qui peut se passer. Alors j'ai eu à peine le temps de saisir que la roue arrière de mon vélo commençait à se soulever, que je me suis retrouvé 2 mètres plus bas, couché sur le dos, avec le plus beau salto certainement de ma vie. Je me rappelle que quand j'étais allongé sur le dos, j'ai dit « Merci Seigneur » plusieurs fois, parce qu'il y a eu plus de peur que de mal. J'ai eu rien de grave ce jour-là. Je pense que le sac à dos a absorbé une bonne partie aussi de la chute. Alors j'ai essayé de comprendre. Comprendre pourquoi ça m'est arrivé sur un chemin qui était aussi facile que celui-là. Alors c'était la fin de la journée, c'est sûr, la luminosité baissait. Il y a aussi le fait qu'à passer 40 ans, eh bien, on voit un peu moins clair qu'avant. Et puis, il y a aussi la fatigue. On était à la fin du parcours. Mais aucune de ces raisons-là, même combinées ensemble, n'ont paru suffisantes pour expliquer pourquoi je me suis planté ainsi ce jour-là. Ma conclusion a été alors tout simplement que j'ai manqué de vigilance. Je n'ai pas fait attention. Eh bien, voilà comme Paul en parle dans ce chapitre, c'est le verset 15, où il dit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Eh bien, cette expression, elle était traduite de différentes manières, notamment par marcher avec soin. Et encore dans la traduction Louis II, c'est écrit marcher avec circonspection. Alors, j'aime particulièrement ce terme circonspection. Il n'est plus utilisé couramment, hein, on ne va plus trop l'utiliser, mais c'est un terme qui vient du latin et qui est formé de deux mots, circum et spectio. Circum qui signifie tout autour, de manière circulaire, et spectio qui veut dire voir, regarder. Ce qui implique que marcher avec soin ou marcher avec circonspection, comme Paul l'écrit dans sa lettre, c'est l'action de regarder tout autour de soi, en faisant particulièrement attention à ce qui se passe. La signification de ce verset est d'être attentif à marcher soigneusement dans ce qui est bon. Le contraire serait justement de marcher avec insouciance, sans guide, sans plan précis. Nous ne pouvons pas, en effet, laisser notre vie chrétienne se dérouler au hasard. Nous devons prendre des décisions sages et chercher ce qui est bon à Dieu. Il est si facile de chuter dans nos vies. Parfois, tout peut se passer tellement vite, un geste, un regard, ou même un mot qui nous échappe, et nous risquons de blesser l'autre ou de nous engager nous-mêmes sur une pente glissante avant même de s'en rendre compte. Ce jour-là, sur cette photo, moi j'estime à seulement 3 secondes entre le moment où je me rends compte que ma roue part de côté et où je me retrouve allongé sur le dos en contrebas. Mon manque de vigilance à ce moment-là m'a empêché de réagir à temps et je n'ai compris le problème qu'au moment où j'étais déjà embarqué dedans. Dans ce passage d'Éphésiens, Paul semble vouloir nous interpeller en disant « Ne marchez pas endormi, mais réveillez-vous, ouvrez les yeux et tirez le maximum de votre journée. » Il est vrai que nous ne savons pas ce qu'un jour peut nous apporter. Mais il serait triste de constater, quand nous traversons notre vie, de faire ce constat que nous l'avons traversé avec somnolence, avec manque d'attention, ne faisant pas d'efforts, même minimes, pour vivre avec Christ et le servir. Parce que Dieu a beaucoup de choses en réserve pour nous, notamment le fait de rayonner nous aussi comme une lumière qui brille dans le monde. Il s'agit de la dernière étape de ce passage d'Éphésiens qui est éclairée dans le brouillard. Alors c'est sûr, cette image, après avoir vu les précédentes, notamment celles où on était au sommet, eh bien, elle ne nous donne pas trop envie de revenir ici-bas. C'est tellement mieux là-haut, tellement mieux au soleil. En plus, ce jour-là, après avoir pris un bain de soleil un peu plus haut, eh bien, j'ai vraiment ressenti ce froid et l'humidité du brouillard quand je suis redescendu en bas. Mais j'ai aussi ressenti vraiment et concrètement que l'air était vicié par les fumées de cheminée, les gaz d'échappement, ce qu'on ne ressent plus qu'on est habitué à vivre dedans. Il est certain que le plan de Dieu est que nous soyons dans ce monde en contact avec lui. Le verset 16, justement, de ce passage nous dit « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Ce jour-là, de balade, je m'étais justement dit que j'avais vraiment ramené quelque chose de plus à la maison. D'avoir vu cette lumière, ce soleil, ça m'avait vraiment réchauffé intérieurement. Ça m'avait donné un bien-être qui se voyait sur moi, qui était possible parce que le soleil m'avait vraiment fait du bien et réchauffait encore mon être malgré le brouillard qui m'entourait à nouveau. Jésus a beaucoup parlé de la lumière et des ténèbres. Un verset dans Matthieu 5, verset 16, où il dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Marcher en enfant de lumière signifie vivre sous le regard de Dieu sans rien cacher. Marcher en enfant de lumière, ça signifie aussi révéler la lumière de Dieu dans nos vies, de chaque jour. Par notre caractère, par notre comportement, nous apportons la lumière de Dieu dans un monde de ténèbres. Si nous sommes nous-mêmes un témoignage vivant de Christ en tant que lumière de Dieu, alors nous aidons à trouver leur chemin vers lui pour ceux qui ne connaissent pas cette lumière. Tout comme une personne, et c'est un bon exemple que j'ai pu trouver, une comparaison, tout comme une personne qui est en bonne santé fait inconsciemment ressortir les handicaps et les maladies de ceux qu'elle visite à l'hôpital, eh bien le chrétien fait ressortir l'obscurité et le péché qui l'entourent simplement en vivant sa foi. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, c'est ce qu'a dit Jésus, Jean 12, verset 46, et il a aussi dit à ses disciples, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Si Jésus a dit à ses disciples qu'ils étaient eux-mêmes la lumière du monde, eh bien ça signifie aussi que nous sommes, nous aussi, la lumière, cette lumière, et que nous devons éclairer à notre tour le monde. Pour conclure, dans ce passage d'Éphésiens, Paul, il nous exhorte, lui, à être cette lumière autour de nous, et il nous donne un certain nombre d'éléments pour savoir comment devenir de plus en plus ces lumières. Tout d'abord, en ne prenant pas part à ce que les gens font de mal, puis en nous efforçant de discerner ce qui plaît au Seigneur, afin de mettre en lumière, au milieu de ce monde éloigné de Dieu, ce qui est bon, tout comme ce qui est mauvais. Alors voilà un beau programme pour notre vie chrétienne. Et c'est un passage, en effet, que nous pouvons vivre de certaines manières. Moi, j'ai pu le vivre en réfléchissant à ça, en me baladant. Mais c'est aussi des exemples concrets qu'on peut avoir tous les jours de sa vie. Et on peut se rappeler, dans ces moments d'hiver qui arrivent, où on peut se sentir peut-être moins bien, que justement Dieu est là pour raviver cette lumière en nous, nous faire du bien, nous réchauffer, mais que cette lumière, elle n'est pas simplement pour nous, mais qu'il veut aussi que cette lumière brille autour de nous pour qu'à leur tour, les personnes qui nous entourent puissent distinguer et voir cette lumière dans leur vie. Amen.